Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Au fil des pages, avec un membre éminent de l'Institut, Gérald Antoine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agrégé de grammaire, docteur Eslède. Vous avez occupé de 1954 à 1968 la chaire d'histoire de la langue française à la Sorbonne, la langue française qui est l'une de vos spécialités, aussi l'une de vos passions, on peut le dire.
Oui, disons passion.
Il y a une passion.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on m'accuse quelquefois d'être un peu passionné.
On vous accuse d'être passionné?
Oui.
Tiens donc.
Ah ben oui. Ben, vous savez, nous sommes sur le canal académique. Alors, on demande à un académicien d'être un peu solennel, à un professeur d'être dans sa chaire. Je sais bien que depuis 68, il n'y a plus de chaire. Alors, ça n'est pas exactement le naturel qui m'a été confié par le destin. Mais ici et maintenant, je vais me discipliner, rassurez-vous.
Mais c'est la convivialité qui prime. Ici, à Canal Academy, ne l'oubliez pas, bien sûr. Je sais que vous allez nous faire partager votre passion à travers le 16e tome de l'histoire de la langue française. Il faut bien représenter une chose, il faut se rendre compte d'une chose, c'est vous qui l'écrivez. 100 ans de labeur, 15 000 pages imprimées, au service de plus de 1000 ans d'histoire. Nous pouvons être heureux. C'est une exclamation de votre part. Il faut que vous resituiez ce 16e ouvrage dans la longue histoire de la langue française par rapport aussi à cette histoire de famille qui est la chaire d'histoire de la langue française à la Sorbonne, bien sûr.
Bon, et écoutez, oui, tâchons d'être brefs parce que c'est tout de même le présent de la langue qui nous intéresse le plus, si je ne m'abuse. Alors c'est vrai, vous venez de le dire, vous venez de me citer, vous avez de la mémoire. C'est le 16e tome et c'est le 26e volume de cette histoire de la langue française qui a été fondé par Ferdinand Bruneau, un Vosgien comme votre serviteur, un Déodatien comme votre serviteur. Il a été nommé dans cette chaire qui a été créée pour lui en 1901. Et son premier souci a été d'écrire une histoire de la langue française dont il disait, il écrivait même au début, « Oh, cela comportera au moins 3 volumes ». Et nous la conduirons jusqu'en 1900. En réalité, Ferdinand Bruneau est mort en 1938 et il a conduit son œuvre jusqu'en 1815, en laissant d'ailleurs 4 volumes sous forme manuscrite et que j'ai eu la charge avec une équipe de reprendre et de mettre au net. Alors, une fois lui disparu, lui a succédé Charles Bruneau, NEAU, aucun rapport de parenté entre eux, Ardennais, non pas Vosgien lui, mais enfin de l'Est aussi, et Charles Bruneau s'est attelé à la poursuite de cet ouvrage. Malheureusement, la guerre est intervenue, Charles Bruneau est entré dans la résistance, autrement dit, il a eu d'autres soucis que de travailler calmement sur ses fiches. Ce qu'il a réalisé, c'est 2 tomes, l'un consacré à l'époque romantique, l'autre à l'époque réaliste, la langue française. Il a donc poursuivi les choses jusqu'en 1880, en gros.
1815, 1880.
C'est cela. Mais en prenant l'histoire de la langue sous son aspect, il faut bien dire le plus séduisant, le plus attachant sans doute, l'aspect littéraire. Autrement dit, là, il reste un trou que nos arrière-neveux s'emploieront, je pense, à combler. Et voilà qu'en 1954, il atteint la limite d'âge, comme on dit, et votre serviteur est appelé à lui succéder. À ma surprise, d'ailleurs, j'étais jeune à l'époque. Or, mon premier soin, moi aussi, a été de reprendre et de poursuivre cette histoire de la langue, l'éditeur Armand Collin, à ce moment-là, ne demandant pas mieux.
Mais il ne va pas suivre.
Oui.
Il ne va pas suivre.
Et pas, ça n'est pas facile, je vois que vous êtes très informé. Alors, soyons brefs. Je suis donc parti de 1880, et avec l'accord de l'éditeur, et après la tenue d'une table ronde que j'avais réunie en regroupant les anciens et les modernes, si j'ose dire, il a été convenu qu'effectivement, plus tard, une histoire de la langue conçue selon des normes plus conformes à l'évolution de la linguistique serait à mettre en chantier, mais pour l'heure, de façon artisanale, disons, et dans la fidélité à la mémoire de Ferdinand Bruneau, mais qui lui-même était à l'écoute de son temps, poursuivre ce grand ouvrage, et on avait songé à 3 tomes, l'un allant de 1880 à 1914, l'autre de 1914 à 45, et le troisième de 45 à 2000. Voilà ce que nous avons fait. Alors, pour faire écho à votre mot de l'instant, j'ai eu une douloureuse surprise. Ça a vraiment été une des heures les plus pénibles de ma carrière. En 1978, si je ne m'abuse, nous apportons Robert Martin, qui est un confrère d'ailleurs de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, et moi, nous faisions tandem, nous apportons le volume 1880-1914, et l'éditeur Armand Collin nous dit « Oh ben non, nous ne pouvons pas le prendre, parce que plus personne ne croit à l'histoire, le structuralisme l'a emporté, l'affaire tombe en panne. »
Alors c'est très intéressant ce que vous nous dites, parce que ça signifie qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. S'intéresse à la fois à l'histoire et à la langue.
Mais non, comme vous le savez d'ailleurs, il y a eu un retour des choses. Et en 78, ce retour s'amorçait. Mais l'éditeur a eu peur de ne pas le vendre. Et alors, disons-le ici, nous restons dans le sein de l'Académie, de l'Institut en tout cas. C'est grâce à Hubert Curien, alors directeur général du CNRS, un Vosgien lui aussi, cela compte, mais un scientifique à l'esprit largement ouvert. Et grâce à lui, quand il est devenu ministre de la Recherche et de la Technologie, que des crédits ont été ouverts et que ce tome a pu paraître, suivi des deux autres, comme je vous l'ai dit, 1914-45 et 1945-2000. Et nous y voici à ce dernier volume. Autrement dit, ce volume, puisqu'il s'agit de lui, peut se regarder de deux façons, vous l'avez dit d'ailleurs, je vous confirme, ou bien comme la suite de cette grande histoire de la langue lancée il y a plus d'un siècle maintenant, ou bien comme un volume se suffisant à soi-même, après tout, c'est une espèce de tableau, ça veut être un tableau de l'évolution de la langue française dans le dernier demi-siècle.
C'est la première option que vous avez choisie. C'est l'option de la continuité que vous avez choisie.
Oui, bien sûr, mais ce qui vous intéresse, vous, sans doute, c'est la seconde version.
Ah, mais nous sommes attachés à la continuité aussi,
à la
transmission.
À la continuité aussi.
Naturellement.
Alors, la continuité, je dirais une chose, et qui peut intéresser nos auditeurs. Ce n'est pas tout d'une pièce, cette affaire-là. Un ouvrage qui s'étale sur un siècle, forcément, évolue lui-même. En même temps que la langue, d'ailleurs. Et ce que je suis content de dire ici, puisque vous me tendez aimablement la perche, c'est que, à partir du moment où Ferdinand Bruno a abordé le XVIIIe siècle, dans les années 1925 par là, il s'est dit et il a écrit. Et c'est très intéressant, du point de vue de l'histoire et même de l'histoire tout court. Il a écrit, le temps s'en va, madame et monsieur. Je suis en train de constater que la langue, elle évolue comme les sociétés évoluent. Et à mesure que les groupes sociaux, il emploie cette expression, les groupes sociaux évoluent, et il faut être informé de la situation des villes, des villages, des campagnes et des villes, pour donner un reflet exact de la langue elle-même n'étant que le reflet de la société. Mais, dit-il, je ne suis pas certain d'être un bon maître dans cette entreprise. Il appelle ça de philologie sociologique.
Décryptage. Philologie physiologique.
Yeah, c'est beau.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Et dit-il, le jour où les historiens voudront bien s'occuper de la vie sociale partout, pas seulement dans les grandes villes, mais dans les villes moyennes et les campagnes, à ce moment-là, ils feront beaucoup mieux que moi. Autrement dit, Ferdinand Bruno, historien de la langue, a devancé la grande mutation de l'histoire tout court. Vous connaissez l'affaire de l'histoire des annales. De peu d'années, mais il l'a devancé. Comme quoi l'histoire de la langue peut instruire.
Quand on étudie l'histoire de la langue, quels sont les outils dont on dispose ? On étudie la phonétique, le vocabulaire, la grammaire, la syntaxe, la sémantique, la rhétorique. Où commence-t-on ? Vous venez de le dire, il semblerait qu'il y ait déjà plusieurs langues selon les groupes sociaux. Alors, comment tout répertorier ?
Bien sûr, c'est pas tellement des instruments, excusez-moi, ce sont des points de vue.
Des points de vue.
Ou des chapitres, disons. Alors écoutez, là je me réfère à la table des matières que j'ai pas sous les yeux, mais que je connais, que je crois connaître. D'ailleurs, je serais peut-être pas fidèle à tout vous avouer. Je l'ai refeuilleté en pensant à cette émission. 5 ans déjà se sont écoulés depuis la publication du volume. Et, pour un peu, je changerai la table des matières. Elle se présente, telle quelle, en 4 parties. Et je la réduirai à 3. Ça serait plus simple et plus clair, me semble-t-il, pour le lecteur. 1. Reprends le mot de Ferdinand Bruno. Une sociologie de la langue. 2. Une géographie de la langue, autrement dit le français à l'étranger. Et 3, une didactique de la langue, l'évolution des méthodes d'enseignement de la philologie, de la grammaire, de la linguistique. Et alors la première partie qui vous intéresse sûrement plus que les deux autres, elle se scinde de soi-même en 3 sections, disons. D'abord, disons, la langue dans ses aspects quotidiens. Alors là, intervient entre autres et prioritairement, disons, la langue parlée, sous toutes ses formes. 2. Les langages des spécialités, on dit les jargons, mais chaque spécialité a sa langue, son langage, disons. Et puis 3, les usages littéraires de la langue, qui, je l'avoue, je suis stylisticien un peu de mon sous-métier. Alors, je lui ai fait, en accord complet avec mon compagnon, qui n'est plus Robert Martin pour ce tome, mais qui est Bernard Cerchilini, nous sommes tout à fait d'accord pour considérer il y a la langue du roman, il y a la langue du théâtre, il y a la langue du cinéma, il y a la langue de la poésie que je me suis gardée, car vous parliez de passion tout à l'heure, j'ai une certaine passion pour la poésie. J'ai pas dit la langue de la poésie, vous avez remarqué, je dis les usages poétiques de la langue, c'est plus prudent.
On garde cette cohérence, ça reste la langue française, mais la langue française sous ses multiples facettes, à la fois parler différemment selon les groupes sociaux et parler différemment selon les usages auxquels on la destine.
C'est ça.
Ça donne une vision assez riche. Extrêmement riche, même.
Trop riche, je dirais. Vous savez, Peggy disait « Oh ben l'histoire est impossible. » Ouais. S'agit-il d'histoire ancienne, on manque de documents. S'agit-il d'histoire moderne et contemporaine, on a trop de documents. Dans tous les cas, il ne faut pas faire d'histoire. Alors nous avons, nous avons relevé le défi. Sous le poids des documents, nous avons essayé de dresser un tableau de l'évolution de cette langue de la dernière guerre à maintenant.
Alors justement, ces 50 dernières années, comment peut-on les qualifier ? Est-ce qu'il faudrait porter un jugement sur elles ? Vous diriez que la langue s'est enrichie, dégradée, a été modifiée sous l'influence de quoi ? Des médias, de l'enseignement ?
Bon, je vous laisse dire.
D'une certaine forme de littérature, de la mondialisation aussi.
Attendez,
comment tout cela interfère ?
Je ne veux pas, c'est pas mon genre, je crois, me dérober à votre question, mais je dirais que l'historien de la langue est un greffier de l'usage, comme disait, je crois, déjà Vaugelas.
Il ne porte pas de jugement.
Il ne porte pas de jugement. Cela dit, d'un micro à l'autre, nous pouvons bien tenter de porter jugement. Ou, disons, d'analyser de manière critique. Alors, je crois vous deviner, parce que vous posez une question qui m'est posée de tous côtés. Est-ce que la langue n'est pas en train, il s'agit de la langue française, n'est pas en train de se dégrader sous diverses influences, d'abord les influences extérieures, la primauté de l'anglais, entre autres, et puis sous la pression de la langue orale, enfin des occasions de parler cette langue et de la parler d'une façon très improvisée. Vous me direz, c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Mais enfin, c'est une improvisation mesurée. Tandis que, dans le courant des heures, nous parlons, j'allais dire, n'importe comment. Alors, premier point, la pression de l'anglais. Ne nous affolons pas. Il ne s'agit pas encore une fois de juger, mais il s'agit d'observer, d'analyser. Bon, au XVIIIe siècle,
l'anglophilie était extrêmement répandue.
Encore au XIXe, avec des nuances, la langue dominante en Europe était le français. Maintenant, ça n'est plus vrai. Tout le monde le sait. Il ne s'agit pas de pleurer ni de rire. la langue de communication, disons, pratiquement universelle, est l'anglais. Avec des nuances, attention, en Chine, on ne parle pas, et au Japon, on ne parle pas tellement anglais, on parle beaucoup anglais, mais...
L'anglais international.
On le parle mal, et après tout, en Chine, on parle le chinois. Mais, disons que les sciences et les techniques, qui sont les maîtresses du jeu aujourd'hui, eh bien bon, là, il y a une langue qui s'impose partout, c'est l'anglais. Bien. Cela est un point. Alors, maintenant, l'autre observation, la pression de l'oral. Eh bien, écoutez, on peut dire que dans les usages quotidiens de la langue, il n'y a pas une dégradation, mais il y a une mutation. Il s'est introduit des éléments de spontanéité, d'où vous parliez de syntaxe tout à l'heure, fragmentation de la syntaxe. Appauvrissement incontestable de la morphologie. Le passé simple, comme on disait autrefois, complètement mort. Le futur, je l'observe, moi pas plus beaucoup, c'est au présent, on vit dans le présent. On revient au thème de tout à l'heure, il y a une espèce de négation de l'histoire. Le vocabulaire se restreint. Dans le même temps, il s'enrichit d'images. Pensez en venant là, il y a des filles qui observent la façon dont on stationne régulièrement ou irrégulièrement. Ben, je revois dans le dernier demi-siècle, elles se sont appelées dans le langage quotidien les aubergines par référence à leur... Mais ça, c'est une image. Après ça, leur uniforme a changé de nuance, on les appelait les pervenches, rappelez-vous. Bon, autrement dit, tout n'est pas négatif dans cette affaire-là. Mais, je reprends mon mot, il y a changement, il y a mutation.
On marque une pause, Gérald Antoine.
Nicolas Poussin et Orphée, la collection privée de Goethe, la gravure de Louis-René Berge, les méditations sur la beauté de François Cheng, les tableaux de Bernard Buffet, de Velikovitch, les œuvres de Pierre-Yves Trémoy, mais aussi le monstrueux dans l'art, ou Bosch et les tentations de Saint-Antoine, Canal Académie vous propose une série d'émissions sur l'art et de réflexions sur la beauté.
Avec nous, Gérald Antoine, donc pour cette Au fil des pages consacrée au 16e tome de l'histoire de la langue française. C'est une œuvre monumentale. Il faut bien se représenter le travail que cela a été et dans la continuité duquel vous vous êtes situé, Gérald Antoine, puisque je rappelle que vous occupiez la chaire d'histoire de la langue française à la Sorbonne entre 54 et 68, et c'est là que vous avez repris le travail de vos prédécesseurs. Alors, 16e tome, mais 26e volume de cette histoire. Nous parlons bien sûr de ces 50 dernières années. Vous portez un jugement relativement mesuré sur la question. Il y a à la fois appauvrissement-enrichissement, il y a à la fois des images qui viennent enrichir la langue et en même temps le langage de la technique qui prend le dessus. C'est l'anglais qui est le maître d'œuvre aujourd'hui de la domination linguistique. Vous dites aussi que 80% des mots nouveaux qui apparaissent dans la langue sont des mots liés à la technique.
À la technique et à la science.
Et aux sciences. C'est quand même un signe, ça.
Mais oui, là, vous avez raison de rappeler ce fait. Ça montre que, au fond, la langue n'évolue pas autant qu'on le croit et autant qu'on le regrette.
Ben oui.
Non, c'est en fait sur une tranche très limitée et très particulière que la langue évolue, tout simplement parce que le réel évolue. Alors les sciences et les techniques, là nous enfonçons des portes ouvertes, se développent tous les jours à une vitesse vertigineuse, et la langue est bien obligée de suivre. Comme l'essentiel, hélas, des découvertes sont réalisées aux États-Unis, bon, c'est naturellement l'anglais ou l'anglo-américain qui s'impose. Cela dit, notons-le en passant, il y a une commission de terminologie française, présidée d'ailleurs par l'un des nôtres, Gabriel de Broglie, qui va devenir le nouveau chancelier de l'Institut. Et cette commission qu'il préside a pour objet de rechercher des équivalents français à ces termes anglo-américains.
Et parfois souvent avec succès. Hein.
Voilà.
Enfin, souvent même, hein, avec succès.
Voilà.
Certains mots ont été repris
voilà
dans le langage courant.
Mais encore une fois, répétons-nous, c'est très professoral, ça, un professeur doit se répéter, ça ne touche que 20% de la langue. Autrement dit, les 80 autres pourcents, bon, ils évoluent aussi, mais avec plus de sagesse.
Je reviens au propos que vous teniez au début de cette émission. la langue parlée par différents groupes sociaux, il y aurait différents types de langages. Est-ce que c'est encore si vrai que cela aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore un langage vraiment argotique? Est-ce qu'on parle différemment à Ménilmontant et dans le 16e arrondissement? Est-ce qu'on parle différemment dans un village de la Creuse ou en Normandie?
J'allais dire « je vous crois », ce qui est peut-être un familiarisme. Certes, et n'oubliez pas, promenez-vous sur la ceinture de Paris dans les fameuses banlieues.
Il y a le parler banlieue, certes.
Oui, le parler des banlieues. Ouais. D'ailleurs, nous ne faisons peut-être pas une part, mais dans le dernier demi-siècle, ce n'était pas aussi frappant que ça l'est aujourd'hui. Mais étant donné la présence de l'immigration maghrébine et d'Afrique, pas seulement du Nord, il y a dans les banlieues un parler, et disons-le, un certain nombre de sabirs qui s'éloignent de plus en plus du français.
Alors, qui s'éloignent du français?
Alors, vous parliez de la Creuse tout à l'heure. Bon, les patois et les dialectes sont morts. On peut le déplorer. Vous savez qu'il y a quelques années, justement, dans la deuxième partie du siècle dernier, il y a eu des hommes politiques situés en particulier à gauche qui ont voulu rétablir ou remettre sur un certain piédestal les parlers régionaux.
La charte des langues régionales, tout ça.
Mais oui, les langues régionales. Ben, la vérité, d'ailleurs Bernard Cerchilini est le premier à le reconnaître.
Votre confrère.
C'est que notre télévision fait que c'est la mort, enfin disons la fin des dialectes et des patois. Je le disais tout à l'heure indiscrètement, je suis un homme de l'Est, alors lorrain, mais il m'arrive souvent d'aller en Alsace. Là, c'était très frappant. Il y a 20 ans, à Strasbourg, vous entendiez parler, les Français parisiens croyaient que c'était de l'allemand. Non. C'est comme qui dirait du Plattdeutsch, c'est de l'alsacien. Eh bien, aujourd'hui, vous entendez parler essentiellement français. Pourquoi? Parce que dans chaque foyer, il y a une télévision. Et cette télévision, elle parle le français de Paris.
Cette télévision aura servi la langue ou l'aura desservi?
Alors, là aussi, bon, je disais, ne jugeons pas. Elle a servi la langue française en ce sens qu'encore une fois, elle lui a assuré son identité nationale. Mais d'un autre côté, parler à la télévision, c'est parler vite. Il m'est arrivé, lorsque j'étais plus jeune, d'être invité souvent, quand j'ai été dans des antichambres ministérielles, d'intervenir tant à la radio qu'à la télévision. Et on me faisait reproche à la télévision d'être trop lent, d'être trop professoral, en disant « attention, attention ». Les gens, alors c'est très intéressant, le regard des auditeurs est capté par l'image, donc votre propos, à la limite, ne les intéresse pas, c'est effrayant. Autrement dit, si vous voulez happer leur attention, parlez vite. Et alors là, vous parliez de phonétique tout à l'heure, un fait fondamental de l'évolution de la langue française dans ce dernier demi-siècle, c'est l'accélération du tempo de la langue.
Auquel on ne pense pas souvent, on n'y pense pas spontanément. Cette accélération du tempo, vous l'attribuez aux médias.
Mais, bien sûr. Et alors là, c'est de plus en plus frappant. On parlait de groupes sociaux, parlons de génération. Ma génération parlait avec la lenteur qui m'est propre. La génération de mes enfants parle plus vite. La génération de mes petits-enfants est telle que ma femme et moi, nous avons peine à les suivre. Et nous observons ça dans toutes les familles que nous connaissons, ou à peu près. Alors, cette accélération du tempo va, mais je l'ai un petit peu dit déjà, avec une modification de la syntaxe, avec une simplification du vocabulaire, parce que quand vous êtes obligé d'aller vite, vous n'avez plus le temps de choisir.
Bien sûr.
Voilà tout un ensemble. Il ne s'agit pas de gémir, non, c'est une évolution.
Mais c'est la pensée qui fait quand même les frais de ce type d'évolution.
Ah oui, mais bon. Non, mais écoutez.
C'est une pensée un peu raccourcie, un peu efficace.
Oui, certes. Mais il y a toujours. Je ne suis pas structuraliste pour 4 sous, je crois. Encore que en syntaxe, j'ai introduit une part de structuralisme. Mais voyons les choses tranquillement. Il y a un phénomène de compensation. Dans la mesure où vous êtes tenté, même contraint, d'aller vers cette rapidité dans l'élocution, par compensation, vous êtes heureux de vous replier dans votre bureau de travail si vous en avez un, ou d'aller vous balader dans la campagne, et là vous prenez tout votre temps pour penser. et pour vous recueillir.
Un dernier mot, Gérald Antoine, sur la crise de l'écrit. Vous savez, la presse française, par exemple, connaît depuis quelque temps déjà une crise terrible qui, alors selon certains experts, se rattache à une crise de l'écrit. Les jeunes générations lisent moins, l'effort de concentration est moindre, n'achètent plus de journaux parce que c'est difficile de lire et de tenir la distance d'un simple article. Mmh. Partagez-vous ce point de vue et quels sont les effets de cette crise de l'écrit sur l'évolution de la langue ou...
Alors,
comment l'interprétez-vous ?
Je le partage. Alors, naturellement, je parle en mon nom. Je peux très bien me tromper. Mais je suis moins sévère que vous et que la plupart de celles et ceux que j'entends. Grand Dieu, nos journaux ne sont pas si mal écrits que ça. Et puis aussi,
non, mais ils sont moins lus.
Ils sont moins lus, mais ça, c'est une autre affaire.
Et c'est de cette crise-là dont je parle. C'est-à-dire, ils sont moins lus parce que les jeunes générations ont moins l'habitude de lire. C'est la vidéosphère qui l'emporte.
Puisqu'ils ont un journal parlé le matin, le midi et le soir, je ne vois pas pourquoi ils liraient par-dessus le marché des journaux. Sauf, nous revenons à notre propos, s'ils s'offrent des moments de calme, de sérénité, de repli, qui leur permet de penser, et de penser pourquoi pas avec l'aide des éditoriaux des journaux. Car parler des journaux comme ça, de la presse, c'est trop facile là aussi. Il y a des niveaux de langue, comme nous disons. Et l'éditorialiste soigne tout de même son style. Les pages d'opinion sont des pages préécrites, soigneusement relues. Alors, faut pas confondre l'emploi de la langue par ces personnes-là avec l'emploi de la langue par celui qui dicte ou qui enregistre à mesure le quotidien des chiens écrasés.
Voilà. Donc, plusieurs niveaux de langue, mais cette crise de l'écrit, vous en minimisez la portée. L'homme d'aujourd'hui, l'homme de demain, lira tout autant qu'hier.
Ah, l'homme de demain, je n'en sais rien.
Il aura le même attachement qu'hier à la langue
nous
française.
Nous ne sommes, ni vous ni moi, ne sommes maîtres de l'évolution des techniques. Vous ne dites rien de tous les moyens d'enregistrement écrits de l'oral. Je vais dire, pensez à tous les hommes et femmes d'entreprise qui ont sur leur bureau, tous les matins, une pile de courriels, comme on dit en français, puisque la commission de terminologie...
L'appellation officielle, c'est courriel.
...a proposé courriel à la place de mail, ou de e-mail plus exactement. Eh bien, ça me trouble. Parce que nous avons affaire à une autre espèce d'écrit, et alors d'écrit qui devient dominant. C'est assez extraordinaire, à un point tel que je connais, de par la diversité de ma carrière, un certain nombre de chefs d'entreprise et de leurs collaborateurs, ils sont littéralement écrasés par la somme de papier qui, encore une fois, dès le début de la journée, mais ça continue tout au long de la journée, s'impose à eux. Alors, quelle est la langue qui existe dans ce genre de papier ?
C'est là aussi que se joue l'avenir.
Encore une fois, c'est de l'oral, mais transposé par l'écrit. Alors là, vous ouvrez un vaste chapitre qui est tout à fait intéressant. Nous l'effleurons.
Merci beaucoup Gérald Antoine. On va laisser ce chapitre ouvert justement, en forme de point d'interrogation sur l'avenir de la langue. Ce 16e tome de la langue française, de l'histoire de la langue française, CNRS édition, on peut dire pour tout savoir sur l'histoire de la langue, sur ces 50 dernières années, et ça se situe dans la continuité de tous les ouvrages que vous avez déjà mentionnés. Merci beaucoup.